Professeur bien-aimé, bonjour chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Je vous salue de tout mon cœur. Donc nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait comprendre que notre vie est entièrement configurée à la sienne si nous acceptons d'ouvrir notre cœur, de lui donner par le simple principe du désir notre volonté. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vie du ciel sur la terre. Le Seigneur nous dit que ce qui se passe au ciel peut se passer dans une âme sur la terre. Et naturellement, il nous donne ce cadeau en grand. Ce n'est pas un simple morceau de lui-même ou une simple vertu. Il nous donne la plénitude de sa vie, la totalité substantielle de son être. Et ce qu'il y a de plus décoiffant, frères et sœurs d'amour, c'est qu'il nous donne cela. Sur le simple principe et fondement de l'intention pure, droite, du simple désir ardent. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs d'amour, ce désir n'est pas simplement un mouvement furtif de l'âme, il s'agit de la mobilisation de toutes les facultés de l'âme, de notre intelligence, de notre volonté et de notre mémoire, de tout notre être. Tout notre être doit tendre vers ce désir. Et nous remercions notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, pour cette grâce insigne qu'il nous communique par l'intercession puissante de sa très sainte Mère, que nous allons demander de venir nous assister. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, encore une fois, soyez les bienvenus. Donc, la dernière fois, nous parlions de ce projet que Dieu avait sur l'humanité et qui avait commencé par la création, naturellement, ce que nous avons vu en plusieurs émissions, par la rédemption. Nous avons commencé dans la rédemption par l'origine même, la conception de notre très saint Seigneur dans le sein de sa mère. Et nous avons compris que Jésus nous disait très clairement que dès le sein de sa mère, il travaillait déjà à réparer tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, puisque dans le sein de sa mère, il était conscient du fait qu'il était le fils, le fœtus Dieu. C'était Dieu. Il n'avait pas cessé d'être Dieu dès le premier instant dans le sein de sa mère. La divinité ne s'est pas emparée de lui, comme ont dit certaines hérésies, après la naissance. Dieu était déjà dans le sein de Marie, c'est pourquoi elle est mère de Dieu, Théotokos. Et donc, dans le sein de sa mère, il sentait, il l'entendait, il était dans l'immensité de son être contenu dans la créature. Et ça, c'est le grand miracle de l'amour, frères et sœurs bien-aimés. Et déjà, tout a commencé là. Et il dit que dans le sein de sa mère, nous l'avons dit, il travaillait déjà à faire advenir ce règne de la divine volonté par les nombreuses souffrances que sa divinité lui infligeait et par la réparation de tous les péchés. Et nous avons vu, frères et sœurs d'amour, hier, la dernière fois, le mois dernier, que lorsqu'il est sorti du sein de sa mère, il a été projeté à la vie. Et cette vie terrestre, fragile et pauvre dans la crèche de Bethléem, il a voulu d'une manière singulière donner son amour à tous les hommes de tous les temps, puisque il était venu pour cela. Et alors, il a étendu ses petits bras de bébé. Il a fait sortir de son être tout entier, de ses petits doigts, des rayons de lumière qui ont parcouru les générations, qui ont parcouru les cœurs des hommes, de ceux qui vivaient en ce moment. Et lorsque ces rayons de lumière et d'amour arrivaient dans les cœurs se refermaient. Et la douleur du petit enfant Jésus était telle qu'il s'est recroquevillé dans les bras de sa mère et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et naturellement, cette lumière divine qui était destinée à engloutir tous les hommes s'est retournée et s'est investie sur sa chère maman. Et alors, il a ainsi, frères et sœurs d'amour, donné à sa mère ce que les créatures lui refusaient. Voici, frères et sœurs d'amour, comment Jésus nous a instruit la dernière fois. Et nous allons aller ainsi progressivement, frères et sœurs bien-aimés. Et il dit que chaque fois qu'il a posé un acte dans le temps de sa rédemption, c'était en vue de la sanctification. C'était en vue, justement, de l'instauration du royaume de la divine volonté, pour laquelle, n'est-ce pas, il était sorti en vérité. Il est sorti réparer les blessures de l'âme en vue de l'unique but, amener cet homme à retourner à la place, au rang et au but pour lequel il a été créé par Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur nous dit que chaque étape, et c'est ce que nous allons essayer de voir à partir du livre du ciel, de manière progressive, en suivant la trajectoire de la vie de notre Seigneur au temps de sa rédemption, de son incarnation. Pardon. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Alors, il dit que dans la grotte de Bethléem, en fait, il préparait et communiquait le règne de Dieu. Frères et sœurs, c'est tout simplement inouï lorsque l'on comprend que dès chaque instant dans la vie de notre Seigneur a été un travail conséquent et divin pour amener la créature à retrouver sa place originelle. Jésus dit que quand il est resté dans la grotte de Bethléem, c'était toujours en vue de communiquer le règne de Dieu. Il le dit, frères et sœurs d'amour, et ceci c'est de manière tellement précise, et il précise même le nombre de jours qu'il a passé dans la grotte de Bethléem. Il parle de 40 jours. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta au tome 22 du 8 septembre 1927. Il dit, ma fille, 40 est un nombre symbolique et significatif dans ma vie ici-bas. À ma naissance, je suis resté 40 jours dans la grotte de Bethléem, symbole de ma vie, de ma divine volonté, qui, quoique présente au milieu des créatures, était comme cachée et en dehors de la cité de leur âme. Voyez. Donc, en fait, frères et sœurs bien-aimés, notre très saint Seigneur est dans la grotte de Bethléem. Cette grotte est sur la terre, mais pourtant cette grotte est cachée. Donc, symbole de la divine volonté, présente au milieu d'eux, mais cachée de la cité de leur âme. Pourquoi elle est cachée? Parce qu'elle n'était pas encore pleinement présente et investie dans les âmes. Et moi, dit Jésus, afin de réparer pour les 40 siècles de volonté humaine, je voulais rester en dehors de la cité pendant 40 jours, dans un misérable refuge, pleurant, gémissant et priant afin de ramener ma divine volonté dans la cité des âmes pour lui rendre son empire. Pourquoi Jésus a passé 40 jours dans la grotte de Bethléem, dit-il? C'était pour prier, pour jeûner, pour réparer, pour gémir et demander que la divine volonté règne dans les créatures, que la divine volonté revienne dans la cité des âmes et s'établisse. Voilà pourquoi, Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, tout, absolument tout, dans la vie de notre Seigneur, tel qu'il le décrit à Luisa Picaretta, était en vue de la restauration de l'homme dans son état premier, lorsqu'il était en tout semblable à son Créateur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il dit qu'il a gémi, qu'il a prié pour que la divine volonté soit ramenée dans les cités des âmes pour prendre tout son empire. Et dit-il, après 40 jours, dit Jésus, je suis allé me présenter au temple pour me révéler au vieux Siméon. Il était la première cité que j'appelais à la connaissance de mon royaume. Et sa joie fut si grande qu'il ferma les yeux à la terre pour les ouvrir à l'éternité. Quand le vieillard Siméon faisait ce d'amour, nous connaissons ce célèbre cantique de Siméon. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations et gloire de ton peuple Israël. Voilà. Et quand le vieillard Siméon, frères et sœurs bien-aimés, voit notre Seigneur, il dit, mon heure est arrivée. Maintenant, j'ai vu ce que j'attendais, ce que le Seigneur avait promis. Que me restait-il encore? Il faut que je ferme, je ferme les yeux à cette vie terrestre, puisque plus rien n'égale cette beauté splendide et divine que je viens de contempler. Le Fils de Dieu est venu dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que Siméon était la première cité. Nous voyons bien que le royaume de la divine volonté n'est pas un royaume circonscrit géographiquement. Ce n'est pas un royaume terrestre, à la manière de certaines hérésies qui ont pensé un règne du Christ temporel. Le millénarisme, s'il a été condamné, ce n'est pas parce qu'il y a une symbolique de 1000 ans ou encore une proclamation de la textualité, voilà, de 1000 ans. Ce n'est pas une histoire de prendre les versets à la lettre. Ce n'est pas ça, en fait. Le problème du millénarisme vient de ce qui l'a voulu établir un règne de 1000 ans, déjà très précisément. Et quand on dit 1000 ans, 1000 ans sont à tes yeux comme un jour comme 1000 ans. Donc on ne peut pas le déterminer comme un chiffre parfait de l'ordre de la mathématique. Ce n'est pas 1000 ans, 1, 2, 3, 4, 1000. Ce n'est pas cela. C'est un temps suffisamment important. Mais le problème du millénarisme, parce qu'il a effectivement eu cette déviance, c'était parce qu'il a établi et défini un règne temporel du Christ qui viendrait prendre possession du monde et qui serait au milieu du monde pendant 1000 ans. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais l'idée d'un temps de paix, d'un règne de paix, est admise par l'Église. Et c'est d'ailleurs fortement présent dans les écrits de saint Irénée de Lyon. Et ici, nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus dit que le Siméon était la première cité du royaume de la divine volonté, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le royaume, ce n'est pas un royaume temporel extérieur, politique ou géographique. Il s'agit essentiellement d'un règne spirituel dans les âmes. Ce sont les âmes qui constituent des royaumes. Vous comme moi, nous sommes des royaumes, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et Jésus le dit très clairement encore au tome 29, du 29 mai 1931, il dit très clairement, le royaume, sont des créatures, ce sont des âmes qui s'ouvrent à la vie divine. Et donc, quand la divine volonté prendra possession des âmes, de royaume en royaume, de proche en proche, frères et sœurs bien-aimés, nous formerons le ciel sur la terre, sans qu'il y ait forcément une délimitation géographique avec un chef temporel qui, en la personne du Christ qui conduirait le monde. Puisque Jésus ne retourne glorieusement et de manière physique, on pourrait dire, physique sur le plan de sa gloire, qu'à la parousie, lorsqu'il viendra récapituler toutes choses. Dans ce temps de paix, frères et sœurs d'amour, Seigneur dit que il était, quand il a vu, quand Siméon a vu le petit Jésus, il a fermé ses yeux à la terre. Et Jésus continue à expliquer, il dit, « J'ai passé 40 jours dans le désert et j'ai ensuite commencé immédiatement ma vie publique pour leur donner les remèdes et les moyens de parvenir au royaume de ma volonté. » Voyez. Et frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici. Il va le redire, donc terminons le passage. Donc, ici, il parle de la grotte et il parle aussi de la circoncision. Quand il a été circoncis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et ensuite, il parlera de la fuite en Égypte par rapport et dans le lien toujours synthétique avec le royaume de la divine volonté qu'il était venu restaurer. Donc tout, absolument tout, y compris dans les moindres faits humains qui portent sur l'ordinaire de sa vie, humaine, concrète. Fuir une persécution, être circoncis selon la loi, tout avait un sens pour la divine volonté. C'est inouï. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, C'est, il dit au tome 20 du 1er janvier 1927. Donc, il résume un tout petit peu tout ce que nous avons dit. Tu dois savoir, dit notre Seigneur, que la créature qui met fin à sa propre volonté retourne à son point d'origine et que la vie nouvelle, la vie de lumière, la vie éternelle de ma volonté commence alors en elle. Lorsque je suis venu sur la terre, j'ai voulu donner beaucoup d'exemples sur la façon de mettre un terme à la volonté humaine. Voyez, il fait un résumé. J'ai voulu naître à minuit pour briser la nuit de la volonté humaine avec le jour resplendissant de la mienne. Et même si la nuit continue à minuit, elle ne se termine pas. Elle n'est que le commencement du jour nouveau. Et mes anges, pour honorer ma naissance et montrer à tous le jour de ma volonté, à partir de minuit, ont réjoui la voûte céleste des cieux. Voilà, nous avons parlé de ça, frères et sœurs d'amour, la dernière fois quand nous parlions de la naissance de notre Seigneur. Et il va continuer. Je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères. Et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint-Joseph. C'était la coupure de la volonté humaine que je voulais faire pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie, sinon la mienne qui avait coulé dans cette coupure pour y recommencer sa vie. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous l'expliquions encore une fois la dernière fois. Le Seigneur veut, a voulu être circoncis, passé par la blessure de la circoncision pour que la volonté humaine soit circoncise et reçoive la vie de la divine volonté. Donc, cette entaille dans l'être profond de Jésus était l'entaille qu'il venait faire dans la volonté humaine pour que la vie divine coule et prenne la place. Et puis, il continue, frères et sœurs d'amour, la fuite en Égypte. Il dit, petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte. Une volonté tyrannique et inique voulait me tuer, symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne. Et j'ai fui afin de dire à tous, fuyez la volonté humaine. Si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée, ma vie entière n'était rien d'autre que l'appel de la divine volonté dans l'humanité. Que ce soit bien aimé. Jésus a fui en Égypte, encore une fois. Il fuyait une volonté tyrannique et inique, dont la volonté humaine, qui voulait le tuer. Et alors, il a ainsi pu dire à tous de fuir la volonté humaine si nous ne voulons pas que la volonté divine soit tuée en nous. Gloria, 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 frères et sœurs d'amour. C'est pourquoi dans la divine volonté, rien, absolument rien n'est insignifiant. Tout est porté par l'immensité de la présence de Dieu. Rien, aucun geste n'est inutile. La main que je lève sur ma tête pour me gratter, le pas que je marque sur une distance d'un mètre, frères et sœurs d'amour, tout cela a une portée éternelle. Et Jésus, quand il marquait ses pas sur le chemin de l'exil, il fuyait la volonté, il invitait des générations et des générations d'âmes à fuir la volonté humaine pour que la divine volonté ne soit pas terrassée en eux. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, il donne des détails sur la manière dont il a vécu en Égypte. Il dit, en Égypte, j'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple, symbole de ma volonté qu'il conserve comme étranger parmi eux, et symbolisant le fait que quiconque veut vivre en paix et uni à ma volonté doit vivre comme un étranger à la volonté humaine. Jésus s'en va dans un pays inconnu qui n'est pas le sien. Il est étranger. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans l'ordre de la divine volonté? Il dit, sois étranger, soit étranger à la volonté humaine. Gloria, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, mon roi. Béni sois-tu. Dis, sois étranger. Ne laisse jamais la volonté humaine prendre le dessus, te dominer. Sinon, sois toujours étranger. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Et Jésus précise très bien, frères et sœurs d'amour, que ce sont deux volontés irréconciliables. Deux volontés irréconciliables. Deux volontés irréconciliables. Il dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement, oh Jésus d'amour, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons pourquoi dans la divine volonté, on n'a pas besoin de miracles extraordinaires. On n'a pas besoin de miracles. Tout, absolument, tout ramène Dieu, ramène le ciel sur la terre. Tout, absolument tout. Une respiration fait descendre le ciel sur la terre. Et il parcourt tous les âges, toutes les générations, du premier jusqu'au dernier homme. Une seule respiration réconcilie le ciel et la terre, c'est à nous faire perdre la tête. Gloria, gloria. Frères et sœurs bien-aimés, si nous l'avons compris, nous ne devrions normalement plus vivre comme nous vivons dans cette tiédeur lamentable qui nous caractérise, frères et sœurs d'amour. Lakshmi. Nous serions continuellement en présence et dans la pensée de celui qui, dans les moindres petits gestes du quotidien, travaille à sauver de nombreuses âmes, à réjouir les saints, à délivrer les âmes du purgatoire dans le moindre petit geste au quotidien, parce que c'est fait par lui. Jésus, quand il fuit la persécution, on pourrait s'imaginer qu'il est en train de se dire « Voici, oh pauvre de moi, qu'est-ce que je fais? Pourtant, je ne suis venu qu'apporter la paix, je n'ai fait du mal à personne » et pleurer sur son sort, gémir sur son sort. Non, non. Jésus, quand il fuit en Égypte, il fuit, il amène des générations, des milliards et des milliards d'âmes par son geste de fuir. Des milliards d'âmes a fui la volonté humaine pour que la volonté divine, frères et sœurs d'amour, ne soit pas terrassée en eux. Et quand il s'établit en Égypte, il est un étranger. Il travaille dans cette posture d'étranger. Il ne dit pas « Oh, pauvre de moi, oh, je suis un étranger dans une terre d'exil, oh, Babylone, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions. » Nos bourreaux nous demandaient des chansons. Alors, si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie, ainsi de suite. Sur des sols, nous avions pendu nos harpes. Ce n'est pas cette lamentation, frères et sœurs d'amour. Même à l'étranger, Jésus travaille à rendre des milliards d'âmes étrangères à la volonté humaine. Nous voyons que nous ne pouvons plus lire l'Écriture de la même manière quand nous lisons, frères et sœurs bien-aimés, le livre du ciel. Quand on lit l'Écriture avec les lunettes de la divine volonté, tout est transfiguré. Tout est transfiguré, absolument tout. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, dont nous disions avant la pause que le Seigneur, dans tout ce qu'il faisait, y compris dans ce qu'on pouvait appeler persécution, travaillait à restaurer la vie de la divine volonté dans les créatures. Et il disait qu'une fois en Égypte comme étranger, alors il était étranger en entraînant une multitude à être étranger à la volonté humaine. Et quand il est revenu de l'exil, il dit, après mon exil, je suis rentré dans ma patrie, symbole de ma volonté qui, après un long exil, de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. En fait, depuis la désobéissance originelle d'Adam, les créatures ont été privées de cette vie du ciel. Et pendant des siècles d'exil, Voici que cette divine volonté revient. Voilà, symbole de son retour, frères et sœurs bien-aimés de l'Égypte. Et Jésus rentre de l'Égypte pour régner, pour venir s'établir justement dans sa terre natale. En fait, la divine volonté revient dans sa terre natale, dans les créatures, frères et sœurs, là où elle était chassée par le péché. Et Jésus dit, frères et sœurs, et en traversant ces étapes de ma vie, j'ai formé mon royaume en moi et je l'appelais par d'incessantes prières, dans la douleur et dans les larmes, pour venir régner parmi les créatures. Voyez, c'est inouï. Je suis rentré dans ma patrie et j'y ai vécu caché et inconnu. Oh, combien cela symbolise la douleur de ma volonté vivant cachée et inconnue. Voyez. Non, tout, absolument tout. Quand il est rentré d'Égypte, frères et sœurs bien-aimés, il est allé s'établir en Galilée. Et en Galilée, personne ne savait qui il était. Alors, quand il commence à accomplir des miracles, on dit, mais celui-là, on le connaît, mais c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Mais d'où lui viennent cela? Tous sont étonnés, il n'y avait rien, aucun éclat dans ses actes. Il était gamin, comme tout le monde, il travaillait à l'atelier de son père. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Il dit que toutes les étapes de sa vie, lorsqu'il s'est établi en Nazareth, c'était le symbole de la volonté divine qui était cachée, cachée. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps? Il priait, il gémissait de douleur, de larmes, pour que le règne advienne parmi les créatures. Jésus dit qu'il est entré dans la patrie qui est la sienne. Lorsqu'il est rentré, il y a vécu caché et inconnu. Donc cela symbolise, dit-il, la douleur de sa volonté vivant cachée et inconnue. Et dans cet anonymat, dit Jésus, je demandais que soit connue la suprême volonté, qu'elle puisse recevoir l'hommage et la gloire qui lui sont dues. Chaque chose que je faisais, dit Jésus, symbolisait une souffrance de ma volonté. La condition où les créatures la plaçaient est un rappel à revenir dans mon royaume. Et c'est ce que je veux que soit ta vie, le constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. Ah. Frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour. Ça n'a pas de nom. Tout, absolument tout, quand il était caché, symbole de la volonté divine cachée au milieu des créatures, quand il travaillait, gémissait, faisait tout, c'était pour appeler le règne de la divine volonté dans les âmes. Et quand il a, frères et sœurs bien-aimés, été ainsi projeté dans cet anonymat, c'est la souffrance de la volonté divine qui est dans l'anonymat, dans les créatures, sans que les créatures ne s'approprient de cette vie divine. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça. Voilà. Frères et sœurs, si nous avions une idée de la manière dont le Seigneur nous aime, si nous avions une idée de tout le travail qu'il se fait et qu'il se donne, si nous avions une idée du gémissement d'un Dieu, des pleurs, des larmes d'un Dieu, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement renversant. Nous ne pouvons pas concevoir un Dieu qui, en principe, est impassible, qui gémit et pleure. Nous comprenons bien que du fait de l'union hypostatique, frères et sœurs d'amour, l'humanité et la divinité en Jésus ne formant qu'une seule réalité inextricable selon la définition du Concile de Chalcédoine en 451, ce qui advient à l'humanité affecte la divinité et ce qui advient à la divinité affecte l'humanité. Sans confusion, sans changement, sans division ni séparation, C'est ce que le Concile de Chalcédoine a appelé la communication des idiomes. Il s'ensuit que notre Jésus pleure en vérité, il ne ferme pas de pleurer. Jésus pleure, frères et sœurs d'amour, Jésus pleure des larmes. Il pleure des larmes, il pleure, il verse des larmes de sang. Il dit, créature, où es-tu? Mon enfant, où es-tu? Je te cherche, s'il te plaît, laisse-toi trouver. Ne t'éloigne pas de la vie que je suis venu t'apporter. Et Jésus, toute sa vie, depuis tout petit, a gémi, dès le sein de sa mère, a gémi. En Égypte, il a gémi, sur les routes de l'exil, il a gémi, de retour d'exil, il a gémi, dans la vie cachée de Nazareth, il gémissait, frères et sœurs d'amour. Il réclamait ton âme, il réclamait ton âme. Il te disait, mon enfant, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Je veux te donner ma vie divine, je veux te donner ma divine volonté, je veux te donner le ciel. Ne t'enfuis pas, je t'en prie, ne t'enfuis pas. Gloria, Seigneur notre roi, quand est-ce que nous serons en capacité d'accueillir véritablement, de nous laisser languir, saisir par tes larmes et tes pleurs, Seigneur? Quand est-ce que nous serons véritablement en capacité d'ouvrir notre cœur et d'accueillir ce grand cadeau qui est toi-même? Quand est-ce que nous serons vraiment à même de te dire notre fiat de manière véritable et définitive? Quand est-ce que nous serons capables de mourir à notre volonté propre, Jésus? Je t'en supplie, Seigneur, t'en supplie. Nous voulons nous laisser toucher par tes pleurs. Voyez, frères et sœurs d'amour, voilà comment notre Seigneur, frères et sœurs, dit ce qui s'est passé. Et il raconte un épisode qui est advenu en Égypte. Et en Égypte, frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur a été particulièrement, comme il était Dieu, sa présence, la dignité de son être, le rayonnement de son être divin qui transparaissait dans son petit corps de 3 ans, la présence du ciel dans son âme et dans tout son être attirait des multitudes, attirait des petits enfants de son âge. Il dit, frères et sœurs d'amour, que là, le règne, même là, en exil, le règne a été proclamé. Il n'a pas laissé passer une seule seconde de sa vie sans œuvrer pour qu'advienne le règne, pour qu'advienne sa divine volonté. Et Jésus dit, tout ce que j'ai fait ici-bas, le premier acte fut la restauration du royaume. Ainsi, en tout ce que j'ai fait ici-bas, dit Jésus, en tout ce que j'ai fait, absolument tout, le premier acte fut la restauration du royaume. Toutes les autres choses arrivaient en deuxième lieu, car le premier acte de connexion, de communion entre moi et les créatures, fut le royaume de ma volonté. Écoutons Jésus, frères et sœurs d'amour. Le premier acte de communion entre moi et les créatures fut le royaume de ma volonté. C'est pourquoi, dit Jésus, lorsqu'il est question de ma volonté, je ne m'épargne rien, ni la lumière, ni les sacrifices, ni les manifestations, ni le bonheur. Ce sont des mets que je libère de moi-même afin de la faire connaître, de la faire régner et de la faire aimer. Tout, absolument tout, frères et sœurs bien-aimés. Tout. Alors, pour revenir à notre petite anecdote de l'Égypte, Jésus raconte à Luisa Picaretta au 10 janvier 1938, que lorsqu'il est arrivé en Égypte, frères et sœurs d'amour, Ils avaient occupé une petite masure. Et il y a eu les enfants qui l'entouraient de son âge, des voisins qui subitement ont accouru. Et il a dû, à 3 ans, il a dû prêcher à ces enfants-là. Il a dû parler. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? C'était son premier sermon. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons notre Seigneur, tout simplement. Donc, c'est au 10 janvier 1938, tu le dis. Il dit, donc, tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant pour être le plus près possible, parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'il ne pouvait plus se détacher de moi. Oh, les enfants, les enfants, les enfants savent reconnaître Dieu, frères et sœurs d'amour. Jamais moi aussi, ces enfants, j'aimais, pardon, j'aimais moi aussi ces enfants. Et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaie non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qu'il peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Voyez, donc c'est l'innocence qui ouvre le sens intérieur, les sens intérieurs. Et veux-tu savoir sur quoi portait mon sermon? Voilà, Jésus dit ce qu'il a dit. Je leur ai dit, mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel, vous avez là où un Père qui vous aime beaucoup et qui ne s'est jamais contenté d'être seulement votre Père du ciel, qui ne s'est pas contenté de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux. Vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas, il bouge dans vos petites mains, il parle avec votre voix. Et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers, d'étreintes cachées, notre Père Céleste ne vous donne-t-il pas? Mais puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Voyez, mes chers enfants, savez-vous ce que le Père Céleste veut de vous? Il veut être reconnu et vous et avoir sa propre en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, va continuer sur une très très longue page à raconter à Luisa Picaretta son sermon en Égypte à 3 ans. En fait, le premier sermon qu'il a fait, c'était pour inviter ses enfants autour de lui, frères et sœurs d'amour, à entrer dans la divine volonté, à vivre la vie, à comprendre qu'ils avaient un Père qui les aimait et qu'ils avaient pour devoir de l'aimer. Et naturellement, cet amour devait leur procurer la vie même de ce Père créateur. Et puisqu'il dit à ses enfants que tous les mouvements de leurs petits pieds, de leurs petites mains sont déployés dans la présence de ce Dieu qui les a créés. Et c'est lui qui les fait mouvoir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Ça ne m'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés.